Les lecteurs, les lectrices de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents des histoires à écouter et réécouter, mises en ligne sur le blog Lire et Faire Lire blog.wordpress.com. Ces textes libres de droit peuvent circuler sans contrainte. Vous les retrouverez sur le site de themeradio.fr à la rubrique podcast. Bonne écoute.
Tous avec le petit Pousset. Une fois n'est pas coutume, je vous présente aujourd'hui un petit ouvrage qui n'est pas à proprement parler un coup de cœur. Il est tout au plus une surprise, voire une plaisanterie, que nous devons au cofondateur de notre association, Alexandre Jardin. Édité par Hachette Jeunesse, pour enfants à partir de 4 ans environ, ce tout petit livre à tout petit prix fait partie de la collection « Entre dans le conte », dont le projet, vous l'aurez compris, est d'entraîner le petit lecteur dans un conte traditionnel à la suite d'un nouveau personnage qui va perturber le fil de l'histoire bien connue. Une entreprise qui vaut surtout par sa promesse de tirer notre héros, et par la même occasion ses frères, d'une situation pour le moins difficile. « Ah non !» proteste Lucie. « Je vous interdis de picorer les miettes !» Et pour mieux se faire obéir, notre commandeuse se précipite dans le livre. Trop tard, les traces du chemin ont disparu. Toutes les miettes sont mangées. Et la nuit ne va pas tarder. Heureusement, Lucie ne se laisse pas impressionner. Elle prend les choses en main. « Hé, vous autres, écoutez-moi. On se rassemble et on ne court pas n'importe où. Il y a plein de dangers dans la forêt. Il ne s'agirait pas de tomber sur des loups ou pire, sur un ogre. » Horreur, le voilà qui surgit dans ses bottes de sept lieues. Terrifiant, énorme et affamé. « Courez vite !» ordonne Lucie au grand cœur. Cette Lucie au grand cœur est en fait une lectrice qui, plongée dans la lecture du petit Pousset, décide, parce qu'elle est une commandeuse, d'après ses petits frères, de prendre les choses en main. Il faut donc sauver le petit Pousset. Le concept peut séduire les enfants à qui il est proposé. À chaque double page, des petits jeux annexes, tels que des devinettes, des exercices d'observation. Tout ceci pour observer plus en détail les illustrations irrésistibles de Hervé Le Goff. On est loin de l'univers impressionnant de Gustave Doré, qui a donné au conte de Perrault une dimension résolument théâtrale, pour créer un univers dense et inquiétant. La forêt de Hervé Le Goff paraît étrange, mais pas pour les mêmes raisons. L'illustrateur, tout comme l'auteur Alexandre Jardin, prend des libertés avec l'histoire en la plongeant dans un bain d'humour et de bienveillance. Nos petits héros sont tantôt intimidés, tantôt effrayés, bien sûr, mais aussi malicieux. « Et si l'ogre arrivait quand même ?» demande le petit Pousset à Lucie. « Que ferais-tu pour nous sauver ?»« C'est toi, Pousset, qui dirigerais tes frères pour battre cet ogre qui se croit tout permis. »« Et tu le ferais fuir ?» répond Lucie. « Ah, mais je suis timide, je ne sais pas donner des ordres. »«
Ah, quand on veut protéger les autres, il faut aussi savoir dire à chacun ce qu'il doit faire !» s'écrie Lucie.
« Regarde, c'est facile !» Elle prend sa plus grosse voix et ordonne aux oiseaux de les aider contre l'ogre. Lucie va donc intervenir auprès des oiseaux et leur assigner une tâche bien précise. Malgré ou grâce à sa personnalité un peu abrupte, la commandeuse va parvenir à transformer le petit Pousset en lui insufflant une détermination qu'on ne lui connaissait pas au début du récit. C'est un des atouts de ce livre. Il met à l'aise le petit lecteur en escamotant les scènes les plus violentes, dans le but évident de dédramatiser une bonne partie du conte d'origine, qu'il ne reprend d'ailleurs même pas dans ses grandes lignes, puisqu'il s'agit pour l'auteur de détourner l'histoire, de la revisiter, au risque d'en retirer ce qu'on pourrait considérer comme l'essentiel, le cœur du drame. Dans cette version inédite, on entend bien le cri terrifiant de l'ogre, mais l'intervention de Lucie aura définitivement changé la donne. Alors, le petit Pousset prend exemple sur Lucie. La commandeuse lui a donné de la force et des idées. Il encourage ses frères. « Chassons cet ogre loin de la forêt. Il est grand temps !» En un instant, le courage est revenu chez les enfants. Lucie est fière du petit Pousset. C'est le miracle des commandeuses. Elles donnent des ordres. Mais surtout, elles unissent tout le monde contre le danger. Vous entendrez ensuite parler du fil rouge qui amènera les enfants à destination. Laquelle ? À vous de jouer. Ce genre d'ouvrage pourra trouver des adeptes que la brièveté du récit séduira, puisqu'il s'agit d'une version très raccourcie de l'original et parce que l'intrusion dans l'histoire d'un nouveau personnage plutôt cocasse aide à dépasser sa peur. Ce livre peut aussi, paradoxalement, constituer comme une étape vers la lecture ou la relecture du conte traditionnel, nettement plus impressionnant et indubitablement plus élaboré, en supposant que l'enfant connaisse ses classiques. Dans la même collection, les deux complices ont signé une douzaine de titres, tels que « Il faut aider le petit chaperon rouge »,« Même pas peur, vaillant petit tailleur »,« Tiens bon, Cendrillon », Le loup ne mangera pas les sept chevreaux, etc. Le ton est donné, il est évidemment facétieux, peut-être considéré comme irrespectueux de la tradition par certains, ou jugé d'une facture un peu trop facile, mais puisqu'il s'agit d'une collection où tout devient possible selon ses créateurs, alors laissons agir le possible.
L'oiseau magique de Yveline Ferret et Anne Rombi chez Piquier Jeunesse. Yveline Ferret, spécialiste de la littérature asiatique, nous donne à lire une histoire adaptée d'un conte chinois, avec une écriture travaillée, sobre, très poétique, typique de la littérature chinoise. Un conte fantastique qui se déroule dans une ambiance de magie et de miracle. Les thèmes en sont très classiques. Ils résonnent en nous à travers des contes et des mythes bien connus. Un enfant sauvé des eaux, des sœurs jalouses, la transformation des frères en statues, l'innocence opposée à la ruse et à la malveillance, les épreuves toujours surmontées par le plus faible, le petit dernier, celui, ici, celle qu'on attendait le moins. Tous ces thèmes sont évidemment universels. Cela se passait jadis, dans ce Tibet si haut, si haut qu'on l'appelle le toit du monde. Dans un certain pays de l'Est régnait un grand roi, père de trois filles. Dans un certain pays de l'Ouest régnait un grand roi, veuf et sans enfant. Le roi du pays de l'Ouest souhaitait vivement se remarier. Il envoya donc une messagère au pays de l'Est s'informer au sujet des trois princesses. Quand il apprit que les belles et jeunes princesses rêvait de devenir reine du pays de l'Ouest, il fit savoir au roi, leur père, qu'il souhaitait toutes les trois les épouser. « Je ne vous le conseille pas, répondit le roi du pays de l'Est. Contentez-vous de la plus jeune, plus belle que le sourire de la lune. » Et, devant son obstination, « cette triple union ne vous amènera que des malheurs, je vous aurai averti. » C'est ainsi que le roi du pays de l'Ouest prit pour femme les trois sœurs. Fêtes et réjouissantes retentirent des jours et des jours à travers les montagnes. Trois saisons s'envolèrent à tire d'aile. La plus jeune des trois reines devint enceinte et promena, tel un vase sacré, son ventre rond à travers le palais. Alors, ses sœurs en conçurent une haine mortelle derrière leurs sourires hypocrites et leurs tendres paroles. Peu avant l'accouchement, le roi, devant partir en pèlerinage, fit à la reine ses recommandations. Après la naissance, qu'on déploie au sommet du palais l'oriflamme aux cinq couleurs sacrées de l'arc-en-ciel, qu'on batte le tambour jamais utilisé. Alors, ma reine, À ce signal, aussitôt, je reviendrai. » Ainsi fut fait. À peine la reine avait-elle mis au monde une fille et deux garçons d'une merveilleuse beauté que l'oriflamme aux cinq couleurs était déployée. Déjà, les roulements du grand tambour jamais utilisé dévalaient les vallées jusqu'au roi. Ayant rendu grâce à Bouddha, le repère chevaucha vers son palais. Son coursier ne galopait pas, il volait. Pendant ce temps, la reine, réconfortée par du thé beurré et un massage aux huiles parfumées, sombrait dans un profond sommeil, ses trois nouveau-nés à ses côtés. Des lampes à beurre brûlaient çà et là. La reine souriait de bonheur dans son rêve. C'est le moment que choisirent les reines, ses sœurs, pour s'emparer des trois bébés et les remplacer par trois chiots nés le matin même au palais. Les enfants, jetés dans des pots de terre, furent lancés dans la rivière. Voilà pour eux. Les trois enfants survivront, recueillis par un lama qui les élèvera et qui, après sa mort, se transformera en oiseau pour continuer à les protéger. Ce qui ne les empêchera pas de devoir surmonter de nombreuses épreuves. Ce qui est extraordinaire aussi dans ce livre, ce sont les magnifiques dessins d'Anne Rombi. Les illustrations d'une qualité rare, généralement sur une page entière, parfois deux, sont de véritables œuvres d'art, presque des tableaux. Des paysages somptueux, des perspectives à couper le souffle, le tout dans un style s'inspirant des dessins orientaux d'une manière absolument époustouflante. À elles seules, les illustrations valent la peine de lire et de regarder longuement cet album.
Les lecteurs, les lectrices de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents des histoires à écouter et réécouter, mises en ligne sur le blog Lire et Faire Lire blog.wordpress.com. Ces textes libres de droit peuvent circuler sans contrainte. Vous les retrouverez sur le site de themeradio.fr à la rubrique podcast. Bonne écoute.